Les meeples sont de sortie, c'est la pause à midi. C'est ludique, les jeux c'est magique.
Amis joueurs, amis joueuses, bienvenue dans C'est Ludique, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte d'un jeu rafraîchissant et aquatique. Oui, vous avez bien entendu, préparez vos filets car on va plonger et croyez-le ou non, un véritable aquarium vous attend ici à Trégastel. Mais ce n'est pas tout, en deuxième partie d'émission, on retrouvera Morgane pour Soirée Jeu, pleine de bonne humeur, de stratégie et surtout de rire. Alors installez-vous confortablement, préparez votre masque et votre tuba, c'est parti pour un nouvel épisode de C'est Ludique. Au menu aujourd'hui, c'est Finspan, un jeu de David Gordon et Michael O'Neill, développé par Elisabeth Agrave, illustré par Anna Maria Martinez Ramilo et Messa Schumacher pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans. Un jeu d'engine building édité par Stone Meyers et Matago. Winspan a connu un véritable succès lors de sa sortie en 2019. Il s'est rapidement imposé et est devenu un classique du jeu de société moderne. En 2024, est sorti Wyrmspan pour captiver les fans de dragons. Et en ce printemps 2025, voici maintenant Finspan qui déplace l'action sous l'eau pour offrir un jeu autour des poissons. Le jeu se déroule en 4 manches, 2 6 tours, soit 24 au total. À chaque fin de manche, ou plutôt de semaine, vous pourrez obtenir des points si vous avez rempli un objectif. Alors au niveau matériel, chaque joueur a un plateau divisé en 3 colonnes. Vous avez de nombreuses cartes représentant une multitude d'espèces de poissons et des jetons représentant les œufs, les juvéniles, la principale monnaie du jeu. Les plateaux sont pré-imprimés avec 3 poissons fourrage et certains emplacements sont marqués pour la position des œufs ou des juvéniles de départ. Tous les joueurs commencent avec une main de 5 cartes, visibles de tous. Parmi les cartes, vous avez 2 poissons de départ, plus simples à jouer au début de la partie. Voilà, vous êtes prêts à jouer. Mais alors comment on joue à Finspan? On a 6 meeples plongeurs. À chaque tour, on va utiliser l'un de nos plongeurs pour faire une action, soit jouer une carte, soit plonger pour récupérer des ressources. Alors si vous décidez de jouer une carte, vous ne pourrez pas la poser partout. Certains poissons vous imposeront la colonne où ils doivent être joués, mais ça peut être aussi la ligne. Les cartes poissons ont un coût pour être posées, il faut parfois défausser les cartes. Dans votre défausse, dépensez des ressources telles que des œufs, des juvéniles. Les gros poissons, les prédateurs doivent également manger les petits poissons en jeu, prenant ainsi leur place sur le plateau. Vous posez la carte par-dessus. Par exemple, pour poser le grand requin blanc, il faut défausser 2 juvéniles et croquer un de vos poissons. Mais bon, il vous rapporte quand même 10 points. Certains poissons vous donnent des bonus à la pose et d'autres ont un bonus d'activation, on va y revenir. Alors au lieu de jouer une carte, l'autre action possible, c'est de plonger. Pour ça, vous allez choisir l'une des 3 colonnes et vous allez récupérer tous les bonus. Voilà pourquoi il faut bien positionner ces cartes. La première colonne vous donne des nouvelles cartes, la deuxième des œufs et la troisième fait éclore vos œufs en juvéniles. Dès que vous avez 3 juvéniles, vous les remplacez par un banc de poissons. Plus intéressant parce que ça va doubler les points. C'est pendant cette action que vous activez les cartes, certaines ne s'activent qu'en fin de partie. Quand vos plongeurs ont tous été utilisés, on score l'objectif de la semaine 1. Par exemple, vous avez 1 point par œuf et juvénile. On reprend ces 6 plongeurs et c'est parti pour une nouvelle semaine. Alors à la fin de la quatrième, on comptera en plus les points indiqués sur nos poissons, sur les œufs, sur les juvéniles, sur les bancs de poissons, sur les poissons mangés. Ils vont rapporter quand même 1 point ceux qui ont été mangés. Celui qui a le plus de points l'emporte tout simplement. Alors ce que j'en pense de Finspan, le plus famille finalement des 3 de cette gamme Winspan. Le gameplay est fluide et simple, c'est une véritable course au point. Il n'y a pas d'interaction entre les joueurs, mais est-ce que l'on veut de l'interaction finalement? Est-ce qu'on veut que quelqu'un vienne piquer nos poissons? Non. Donc ça c'est très bien comme ça. Les graphismes des plateaux et des cartes sont superbes. Si vous souhaitez améliorer l'esthétique de votre jeu en remplaçant les jetons, il y a un pack aussi amélioration que vous pouvez trouver sur le site de Matago. Des ressources avec des meeples pour les juvéniles et les bancs de poissons et des petits œufs. Une chose est sûre, si vous cherchez un jeu léger et zen, si vous souhaitez vous initier à la famille Winspan, ou si vous aimez tout simplement vraiment les poissons comme moi, Finspan est fait pour vous. Alors pour poursuivre la découverte des poissons, vous pouvez venir visiter l'aquarium marin de Trégastel qui vous invite à la découverte de la faune sous-marine locale. La visite s'articule en trois zones et d'une exposition permanente qui permettent de découvrir et d'observer les habitants de la Manche et leur lieu de vie. Alors, il y a de nombreuses animations qui sont proposées tout au long de l'année, des expositions. Quel océan pour demain, une exposition jusqu'au 2 novembre 2025. À travers des photographies, venez découvrir les impacts du changement climatique sur les écosystèmes marins. Et puis, il y a aussi la pêche à pied, une exposition toute l'année, une exposition pédagogique qui présente à la loupe les coquillages les plus convoités de nos estrons. Où vivent-ils ? Que mangent-ils ? Voilà, je vous ai parlé donc de Finspan, un jeu autour donc des poissons. Si vous aimez découvrir de nouvelles espèces de poissons, ce jeu est certainement fait pour vous. Et ça vient de sortir, et il y a quoi ? Il y a 2 mois chez Matago. Donc si vous avez aimé l'esprit Winspan ou Wyrmspan, Finspan est certainement fait pour vous. Il y en aura certainement d'autres un jour dans la collection. Puis peut-être aussi une extension pour Finspan. Bref, allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Morgane pour soi.
C'est la pause déjeuner. C'est ludique, les soirées jeux, c'est magique.
Et les soirées jeux, c'est tous les lundis avec Morgane du Carnet des Geekeries. Salut Morgane.
Salut.
Ça va bien ?
Bah oui, toi.
Bah oui.
Après un long week-end.
Après un long week-end, effectivement, c'est vrai, ça a été un très très long week-end. T'en as bien profité de ce long week-end ? T'as joué ?
Ouais, un peu joué, beaucoup de repos.
Ah, beaucoup de repos, d'accord, ok.
Ça fait du bien aussi, j'ai un gros week-end ludique qui arrive, donc...
D'accord, ok, bah très bien. Bon, moi j'ai pas trop joué ce week-end. J'avoue.
T'as profité aussi.
Alors j'ai profité aussi. J'étais très foot ce week-end. Donc
ah oui, forcément.
Donc ouais. Donc c'est vrai que les jeux étaient un peu de côté. Hein, d'ailleurs, il y avait un peu de déco chez moi, si tu veux. Donc même on voyait plus les jeux. Donc non, sérieusement, Morgane, on va parler des pillards de la mer du Nord.
C'est ça, on va commencer avec ce jeu-là qui fait sans doute partie de mon top 10 de mes jeux de tous les temps.
Ah, quand même.
Ah oui, c'est vraiment un jeu auquel j'ai toujours autant de plaisir à y jouer depuis plusieurs années. Donc ce jeu, c'est donc Pierre de la Mer du Nord. C'est un jeu de Shem Phillips qui est illustré par The Miko, qu'on connaît aussi derrière Valéria le Royaume ou la BD Marchand par exemple. Et c'est sorti en 2017 chez Pixie Games. Dans ce jeu, on est sur un jeu de poste d'ouvrier en plein âge d'or des vikings. Donc en fait, on incarne des guerriers vikings.
Ouais.
Et on va tout faire pour tenter d'impressionner le Jarl, le chef de clan, en réalisant des pillages de plus en plus compliqués. Pour ça, on va devoir recruter un équipage, mais aussi récupérer des provisions et de l'argent pour pouvoir effectuer nos voyages sereinement. On va donc partir avec 5 cartes d'équipage en main et un petit meeple noir. Ce meeple, en fait, il va nous permettre d'activer une action sur le plateau. Parce qu'en fait, sur le plateau, on a plein de zones différentes avec une couleur de meeple qui est imposée. Dans le jeu, on a des meeples noirs, gris et blancs. Et en fait, il y a certaines zones qui sont accessibles qu'aux meeples gris, par exemple.
D'accord.
D'autres à tous les meeples, sauf les blancs. Et surtout, l'emplacement en fait d'un meeple sera unique. Donc, on pourra pas avoir plusieurs meeples dessus en même temps. Et en fait, à notre tour, on va faire 2 actions en réalité. Donc la première, en posant notre meeple noir sur une zone, on va réaliser l'action correspondante. Donc ça peut être recruter un membre d'équipage de sa main en payant son coût, récupérer des provisions ou de l'argent, avancer sur une piste de défense militaire, piocher même des nouvelles cartes. Et même parfois, on pourra défausser une carte de notre main qui va nous octroyer une faveur particulière du Jarl. Et ensuite, en fait, on va aller récupérer un meeple d'une autre zone pour réaliser aussi l'action depuis laquelle il provient. Donc en fait, le principe de cette mécanique, elle est très simple. Mais elle est hyper importante. On commence et on finit son tour toujours avec un meeple devant nous.
D'accord.
Et bien évidemment, on ne pourra pas récupérer celui qu'on vient de poser. Donc c'est vraiment la base du jeu. Hein. Il t'explique ça tout de suite dans les règles. Et en fait, ça te permet aussi d'anticiper puisque tu sais que le meeple que tu vas récupérer, eh ben, c'est celui que tu vas poser à ton prochain tour. Donc la couleur va quand même être importante pour la suite.
Mm-hmm.
Grâce à ces actions, du coup, petit à petit, on a notre équipage qui va s'améliorer. On va avoir des provisions, de l'argent. On va avoir une défense militaire aussi qui aura commencé à se mettre en place. Et en fait, on va pouvoir évoluer sur le plateau, donc de bas en haut, en allant piller de nombreux lieux. Donc on a les ports, les monastères, les forteresses, etc. Et ces pillages, ils vont nous permettre de récupérer là aussi un nouveau meeple, mais aussi un butin avec de l'or, du bétail et du fer, qui pourront soit faire des points en fin de partie, soit permettre de piller un lieu qui est plus haut et plus important, soit pour faire des offrandes au Jarl et avoir des points de victoire supplémentaires.
D'accord.
Mais comme les emplacements, eh ben, ils sont limités, eh ben, en fait, on a un petit côté course qui se met en route avec nos adversaires. Parce que bah, la plupart des pillages sur les lieux, tu peux avoir que 2 emplacements, enfin 2 meeples dessus. Donc forcément, si tu joues à 3 ou 4, tu sais que tu n'auras pas forcément ta chance pour y aller.
Ouais.
Pour attaquer un lieu, du coup, on va avoir besoin de ressources, d'un nombre de membres d'équipage qui sera indiqué. Donc ça peut être 3 ou 4 cartes posées devant nous. Mais aussi une défense si on veut récupérer des points de victoire en plus. On va aussi rester prudent pendant ces pillages parce que nos membres ils peuvent tomber au combat face aux Valkyries. Au final, ça reste quand même un avantage parce que ça va nous faire quand même des points de victoire sur la piste des Valkyries.
D'accord.
Et il y a certains membres d'équipage qui ont un effet aussi spécifique s'ils sont défaussés, s'ils tombent pendant un combat justement. Donc voilà, ça peut quand même rester un bon avantage et c'est pas une frustration de le faire ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, ces pillages, on va les enchaîner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule forteresse à piller ou qu'il n'y ait plus d'offrandes à faire pour le Jarl. Et dans ce cas-là, c'est la fin de partie. Et en fait, c'est ça qui fait toute la force du jeu. C'est bah, cette façon de voir le jeu qui évolue, de voir les meeples qui s'installent petit à petit sur le plateau, de voir le jeu qui s'accélère aussi, tout en gardant en tête bah, notre objectif de piller les lieux pour gagner des points. Mmh. En fait, pour moi, c'est un jeu, alors il y a quelques années hein, déjà, mais... Il a réussi à révolutionner la mécanique de poste d'ouvrier, en fait, avec cette double interaction des meeples, parce que autant t'as le côté course, t'as le côté confrontation avec les adversaires, sans être de l'interaction directe, hein, pour autant.
Ouais.
Mais, bah, du coup, ça s'enchaîne rapidement, c'est hyper fluide, enfin, j'ai fait découvrir le jeu à quelqu'un qui avait jamais joué.
Ouais, moi, j'ai jamais joué non plus.
Pour qu'ils comprennent. Mais c'est une pépite, ce jeu, c'est vraiment, moi, voilà. C'est un chouchou. Et c'est vrai qu'on peut pas réellement anticiper, alors, tous nos tours, parce qu'un emplacement souhaité, il peut être récupéré par quelqu'un d'autre, et du coup, bah, il y aura un meeple dessus pour nous bloquer. Mais voilà, on a toujours plusieurs options disponibles, et Pierre de la Mer du Nord, enfin, pour moi, c'est vraiment le jeu qui te montre une vraie montée en puissance tout au long de la partie, parce qu'on s'équipe, on améliore notre équipage, on évolue sur le plateau. Bref, voilà, j'ai vraiment un gros coup de cœur sur ce jeu. Après, ça fait partie d'une trilogie de trois jeux sur le thème de la Mer du Nord. Avec des thèmes qui sont semblables, des mécaniques qui sont quand même différentes. Et il y a d'autres trilogies de Shem Phillips qui sont sorties avec les Royaumes de l'Ouest et les Tigres du Sud. Il y a toujours trois jeux par saga. Et l'avantage, c'est d'être complètement bah, pour tout type de joueur. En fait, je pense que chacun peut trouver celui qui va lui plaire dans les trilogies. Même si pour moi, pour l'instant, il n'y en a aucun qui a détrôné Pierre. Mais,
D'accord, ok, bon, moi c'est clair.
Il faut qu'il fasse jouer à celui-là.
Ah bah oui, forcément. Ah, obligé.
Il peut faire peur, en fait, mais il est hyper accessible au final.
D'accord.
Donc c'est les tours, ils s'enchaînent vraiment hyper vite. T'as pas des temps morts, pas possible entre les tours avec chacun qui réfléchit. Ça s'enchaîne hyper rapidement, quoi. C'est
très
hyper
bien.
Agréable.
Donc un classique, si j'ai bien compris.
Ah oui, pour moi oui.
Autre jeu dont tu voulais nous parler.
Alors, on quitte les Vikings du coup pour aller rejoindre les Bardes celtiques de Tir na n'Og. Alors je suis désolée si je prononce pas correctement. Je suis pas bretonne. Dans l'autre monde, du coup, Tir na n'Og, c'est un jeu de Isaac Chalès, Jason Singerland, qui a été illustré par Marlies Barents et Brigitte Indelicato, et ça vient de sortir chez Lucky Duck Games. Donc, dans ce jeu, en fait, on va devoir créer une saga, une histoire, avec des rencontres de créatures mythiques. On est sur du jeu de cartes, du placement de cartes, avec un scoring spécifique qui va s'appliquer. Et pour jouer, c'est pas compliqué, en fait, on va avoir une zone de cartes au centre de la table, c'est un carré de 3x3, et chaque joueur aura 3 pions bardes à poser pour la première phase de jeu. Ce barde, on va aller le poser, en fait, à cheval entre deux cartes qui seront au centre de la table, et chacun fera ça avec ses 3 pions spécifiques, ses 3 pions compteurs. Et ensuite, en repartant dans le sens inverse du tour, on va aller récupérer nos pions un par un, et une des deux cartes sur lesquelles il était posé à chaque fois. Ces cartes, elles vont venir dans notre main, et ensuite, depuis notre main, on va aller placer une carte devant nous sur notre zone personnelle qui fait 3 lignes pour chaque barde récupérée. On ne sera pas obligé de poser la carte qu'on vient de récupérer, hein, on pourra la poser plus tard, celle-là. Mais ces 3 lignes devant nous, bah, elles seront hyper importantes parce que c'est elles qui vont définir notre score en fin de partie.
Okay.
Chaque ligne va scorer différemment en fonction des connexions qu'on aura réalisées. C'est des sortes d'objectifs, hein. Soit on retrouve vraiment des objectifs. Tu peux avoir par exemple la première ligne qui va te dire bah, « il faut que tu réalises une suite de chiffres ». Donc des chiffres qui sont toujours dans l'ordre croissant.
Ouais.
Tu peux avoir besoin d'avoir des valeurs uniques dans la ligne et dans la colonne pour marquer les points de la carte ou de combiner des couleurs. Bref, chaque ligne aura son objectif à réaliser et il y a plusieurs types de cartes différentes pour avoir des objectifs différents dans le jeu. Certaines cartes rencontres aussi qu'on ira poser sur nos lignes, elles vont également avoir des effets spécifiques comme modifier la couleur de la carte ou son emplacement. Du coup, bah, chaque pose de carte, enfin la carte rencontre que tu vas aller poser, tu te feras quand même gaffe à ce que tu fais parce que ça peut potentiellement te casser ton plateau d'un coup. Si t'avais fait un super alignement de couleurs et que d'un coup la carte elle te dit ah bah finalement je suis plus jaune, je suis rouge. Et ben voilà, tu te retrouves avec ça en plein milieu.
D'accord.
Et ça peut faire un peu mal. Il peut arriver aussi qu'un barde, il ait plus de cartes à récupérer puisque les deux autres bardes adverses ont récupéré les cartes qu'il y avait autour plus tôt. Dans ce cas-là, on n'est quand même pas pénalisé puisqu'à la fin de la manche, on va quand même récupérer une autre carte de la zone de jeu, même si c'est pas forcément celle qu'on voulait à la base. On va réaliser du coup 5 manches avec un nombre de cartes en main et de choix qui va réduire petit à petit au fil des manches. Et forcément, à la fin, celui qui a le plus de points va l'emporter. Avec ce jeu, en fait, on a un gameplay aux mécaniques qui sont déjà connues. Donc on a de la gestion de main, du placement de cartes et une sorte de draft en soi pour aller chercher les cartes centrales. Mais du coup, chaque barde posée, chaque carte récupérée et surtout bah, chaque carte jouée va avoir son importance et apportera une petite touche stratégique au jeu. C'est plutôt un jeu pour les amateurs de réflexion.
D'accord.
De casse-tête, parce qu'en fait, rapidement, ça se transforme vraiment en petit casse-tête à chercher les bonnes cartes qui vont alimenter correctement notre zone personnelle. On construit dans son coin, hein, on ne cherche pas d'interaction dans ce jeu, mais c'est vrai qu'il reste quand même agréable à jouer. Il n'y a pas de doute, enfin, de ce côté-là, moi, j'ai pris plaisir à y jouer. Le charme du jeu, il vient aussi de l'univers celtique qui est autour, avec des petits résumés qui nous en apprennent plus dessus. Et comme souvent avec les jeux Lucky Duck Games maintenant, je pense notamment à Cascadia, et je crois Utan l'avait aussi, on a un mode solo qui est bien pensé avec des défis supplémentaires. Okay. À réaliser, mais voilà, ça se joue très bien, mais c'est vrai que ce sera peut-être plus réservé pour ceux qui sont plus jeux de réflexion et de petits cassettes à se dire, ok, il me faut cette carte-là pour faire ma bonne combinaison, pour faire mon objectif.
Ouais. Est-ce que là, au niveau de la thématique, est-ce que c'est vraiment présent ou pas? Parce que là, j'ai l'impression que tu me parlais de couleurs, de chiffres.
Est-ce que... Alors, c'est pas tant présent que ça.
D'accord, ok.
Il n'y a pas trop la thématique, ils auraient pu mettre autre chose, ça n'aurait pas dérangé. Après, ça fait un charme aussi, parce que voilà, on n'a pas de thème espace comme on a tout le temps. Des thèmes qu'on connaît à chaque fois dans les jeux. Là, le thème, il est original. Après, voilà, tu vas poser ton barde entre deux cartes, tu racontes l'histoire dans ta zone personnelle, mais voilà, ça joue très bien. Hein. C'est juste que voilà, ce sera peut-être pas forcément. En fait, quand tu vois la boîte au début, tu t'attends pas à un jeu comme ça.
D'accord.
Et au final, il a été agréable à jouer, quoi. Mais voilà, c'est du déjà vu, mais ça fonctionne très bien et je pense qu'en familial, ça peut être très sympa.
T-Arnog, donc. Il y avait donc un autre jeu qui n'a rien à voir, un tout petit jeu de cartes dont tu voulais nous parler.
Oui, un tout petit jeu de cartes, c'est Taco Loco. C'est un jeu de Trio Games Designer qui est illustré par Crocotam et c'est sorti chez Helvetic dans la même gamme qu'Audin. La même gamme Podgate Games, voilà, donc le grand gagnant de l'Azor 2025.
Audin qui cartonne, hein, j'ai envie de te dire. Hein.
Aujourd'hui, il cartonne bien.
Et d'ailleurs, on en aura plein à vous faire gagner cet été des Audin.
Ah bah en plus, bah parfait.
Voilà. C'est nickel, vas-y.
Mais du coup, ici, bah, je suis désolée, Mathieu, il n'y a pas de combat viking, il n'y a pas tout ça.
Non.
On va assembler des tacos, c'est l'heure de manger, donc au bout d'un moment,
c'est
on
vrai,
va
c'est l'heure.
De cette façon. C'est voilà.
Midi et demi, parfait pour manger.
Exactement. Il va y avoir une hausse de vente de tacos, là, ce midi, ça va être sympa. Chaque joueur va avoir 3 cartes en main. Donc à chaque tour, un joueur va aller poser une carte sur le taco en cours. Les cartes, elles sont numérotées de 0 à 9. Et l'essentiel, c'est de ne pas dépasser 11 points pour la valeur du total du taco commun. En bref, on doit remplir le taco, mais sans le faire déborder. Donc ensuite, on a 3 possibilités. C'est soit on pose une carte et le résultat est toujours inférieur à 11, tout va bien, on continue à jouer. Mm-hmm. Si on atteint 11 tout pile, c'est le taco parfait. Et dans ces cas-là, toutes les cartes du taco, on les donne au joueur de notre choix. Par contre, si nous, on pose une carte qui fait dépasser les 11 points, le taco, il est immangeable et on le récupère entièrement.
Ah, pas cool.
Donc, sachant que pour gagner la partie, on doit avoir le moins de cartes possible. On va faire en sorte d'éviter les tacos immangeables. Du coup, il y a 2 cartes spéciales qui nous attendent. Il y a le 0, c'est le taco solitaire. Lui, il remet à 0 le compteur du taco. Donc là, on peut avoir un taco qui fait 15-20 cartes sans problème et du coup qui fait mal si on le récupère. Et on a également le taco légendaire qui met automatiquement le taco à 11, donc le taco parfait. Mais il faut faire attention parce qu'un taco solitaire peut le contrer. Et un joueur qui pose un taco légendaire à 11 points peut se retrouver au final à récupérer toutes les cartes du taco immangeable. C'est un peu l'arroseur arrosé.
Ah oui, ouais. Faire attention, quoi.
C'est ça. Du coup, on est sur un principe de blackjack avec un côté à chaque fois à récupérer les cartes qui met une belle ambiance parce que des fois, les tacos seront limite à 9-10 points. Et si un joueur n'a pas ce qu'il faut pour rester sous les 11 points ou créer le taco parfait, on sait que c'est lui qui va récupérer les cartes. Il y a le contre possible aussi avec le taco solitaire qui est vraiment une idée hyper bien pensée pour retourner la situation en un rien de temps. À savoir aussi qu'un taco ne peut pas avoir 2 cartes de valeur identiques qui suivent, donc il peut y avoir plusieurs tacos créés en même temps. Mais franchement, moi j'ai rien à reprocher sur ce jeu, quoi. C'est vraiment un jeu de défaut, cette combinaison hyper malin.
Ouais.
Ça s'explique vite, ça se joue vite, ça s'emmène partout avec son petit format, comme Honor en fait. Hein.
Ouais.
Mais ça fonctionne très très bien. Moi je sais que j'adore les jeux de cette gamme Helvetic, ils font vraiment une belle gamme avec les Pocket Games. Il y avait Bandido aussi que j'adore ce jeu.
Oui.
Qui était sorti il y a un petit moment déjà. Mais voilà, je pense qu'avec Audin, ce Taco Loco et Bandido, j'ai mon petit top 3 des jeux. Pocket Games d'Helvetic, mais voilà, c'est des jeux accessibles que tu transportes partout et qui se jouent très vite. Enfin, je les trouve ultra efficaces, quoi.
Très bien. Donc, ils ont vraiment une gamme vraiment très très sympa.
Je les ai pas tous faits, mais je crois qu'il y en a quand même d'autres qui sont aussi
très
sympas.
Ouais, il y en a des biens. Alors, je les ai pas en tête, mais il y a Mada aussi qui est pas mal. Il y a Tucano. Enfin, il y en a quelques-uns.
Il y avait Tucano. Ouais. Il y en avait un aussi avec un petit champignon dessus, mais je l'ai pas essayé.
Avec un petit champ. Ah oui, c'est Kinoko ou quelque chose comme ça. Il me semble que ça commence. Et qui est très bien aussi, ouais.
Il y en a quelques-uns, je pense, qui peuvent. Enfin, c'est une gamme qui a tout pour marcher, en fait. Donc, qui est très, très sympa.
Voilà. Eh ben, super. Merci beaucoup, Morgane. On se retrouve lundi. Ah bah non, on se retrouve pas lundi prochain.
Pas la semaine prochaine.
Eh bah non, lundi, il n'y aura pas d'émission puisque c'est lundi de Pentecôte. Après, on arrête avec les jours fériés hein, jusqu'à la fin de l'année, j'allais dire. Jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire le 20 juin. Voilà. Merci beaucoup, Morgane. Je crois que demain, tu fêtes quelque chose, non?
Ouais, je crois que j'ai une bougie en plus demain.
T'as une bougie en plus, dis donc. Alors d'avant, je te souhaite un bon anniversaire.
Merci.
Et puis bah profite bien. Je pense que tu vas fêter ça, forcément.
Oui, ce week-end, ouais. On a un week-end jeu qui m'attend là.
Ah, c'est donc grosse fiesta, mais week-end jeu.
Exactement.
Vous êtes nombreux?
Non, on va pas être beaucoup, mais tu vois, le but c'est de continuer Bomb Buster, c'est de faire un escape game.
D'accord,
puis,
voilà. Ouais, donc.
Petit programme ludique sympa, mais ça me va bien.
Plutôt sympa. Eh ben parfait. Merci beaucoup Morgane.
Merci
et
à
dans
toi,
15 jours.
Salut. Ça marche. Salut.